Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin, vendredi 7 août, avec toute l'équipe, Pierre Rondeau, notre économiste, Victor Pourchet, journaliste RMC, Charlène Villemer pour la météo, entre autres, et avec vous, on vous attend au 32-16. Victor est donc à mes côtés pour lire tous vos messages, notamment sur tous les sujets, sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424, également sur l'appli RMC Direct Studio à 7h10. En ce week-end de départ et de retour sur la route des vacances, gros plan sur le bioéthanol. Les ventes de boîtiers explosent pour un carburant vendu à 80 centimes d'euros le litre. Le patron de l'entreprise Flex Fuel est avec nous. La route et ses dangers. Le mois d'août reste le plus meurtrier de l'année et le porte-parole de la gendarmerie nationale est notre invité à 7h40. Faut-il prendre au sérieux les menaces faites par le FLNC contre les non-corses qui sont ces hommes armés qui profèrent ces menaces? Jacques Folleroux, journaliste au Monde et spécialiste de la Corse, est avec nous à 8h10. Et puis à 8h45, un projet de loi, enfin c'est pas un projet de loi, c'est une proposition faite pour taxer le tabac afin de financer la lutte contre les incendies. C'est une bonne ou une mauvaise idée, proposition faite par un député LR. Vous nous appelez au 32-16. Et Serdar Kaya, président de la Confédération des Buralistes, est notre invité. Bon réveil à tous. Dans un instant, le journal. Mais avant cela, la météo avec Charlène Villemer. Charlène, journée très calme, très ensoleillée. Et toujours très chaud à l'est.
Et toujours très chaud à l'est. En effet, 8 départements sont toujours en vigilance orange canicule aujourd'hui. On a 3 départements en risque très élevé, feu de forêt également, les Bouches-du-Rhône, le Var et puis le Vaucluse. Journée très ensoleillée avec cette instabilité qui se développe dans le sud-est, notamment sur le Mercantour et puis sur les crêtes des Pyrénées. Mais c'est plutôt côté espagnol, donc ça va pas trop nous concerner. Cet après-midi en Corse, on aura de la pluie qui va tomber. Pluie assez forte, mais assez brève. Et puis il y a surtout ce vent qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, le Mistral et puis la Tramontane qui vont souffler assez fort. 60 km/h pour la Tramontane et 70 pour le Mistral. Les températures, ça reste très chaud, donc dans le sud-est entre 31 et 37 degrés. La maximale, ce sera pour Perpignan avec 37 et puis beaucoup plus frais près des côtes de la Manche, 21 à Cherbourg.
Merci Charlène. RMC, il est presque 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Encore un incendie, cette fois dans l'Aude, rapidement fixé dans le massif des Corbières, largement meurtri déjà l'été dernier. Et si l'on finançait la lutte contre les incendies en taxant les industriels du tabac, c'est la proposition d'un député. Des cambriolages en hausse en juillet, près de 6% d'augmentation par rapport à l'an dernier, c'est une information BFM TV. Et puis les fédérations sud-américaines de football tournent le dos à Gianni Infantino, le président de la FIFA, en revanche largement soutenu par la Confédération africaine.
Clara, dans l'Aude, l'incendie qui s'est déclaré hier a été fixé dans la soirée.
120 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour surveiller toute potentielle reprise de feu. Il est parti d'un accident de la route aux alentours de 16h hier au niveau de la commune de Montserret, près de Narbonne. 100 hectares parcourus par les flammes, 2 villages évacués. Mathias Luguin, un incendie dans le massif des Corbières, déjà très durement touché l'été dernier.
Oui, ces flammes ont ravivé le souvenir douloureux de l'ogre des Corbières. Un an après, presque jour pour jour, l'incendie avait ravagé 17 000 hectares en 3 semaines et sinistré de nombreuses communes aux alentours. Camille a immédiatement réagi dans sa pépinière à Saint-André de Roquelongue.
On a de suite pris peur, paniqué et on est vite allé là-bas pour tout mouiller et éviter le pire. C'est des angoisses parce que l'ogre des Corbières était juste de l'autre côté l'année dernière. On s'est dit c'est pas possible quoi, on peut pas de nouveau tout perdre comme ça.
Confinés pendant environ 2 heures, les habitants n'ont eu d'autre choix que d'assister impuissants à l'intervention des pompiers. Un combat contre les flammes qui a sidéré Sébastien.
On a eu les 4 canadaires d'un coup. Honnêtement, ça nous a énormément rassurés. C'était impressionnant. On avait un hélico toutes les 2 minutes, des avions qui passaient dans tous les sens. On se sentait protégés, quoi. Donc, plutôt content. Après ce stress, on va se faire un bon petit repas arrosé.
Une vingtaine d'habitations a pu être protégée hier. Et malgré une évolution positive, la vigilance reste de mise dans le massif très sec cet été encore.
Beaucoup de vigilance aussi dans le Var où le risque de feu de forêt est très élevé. Hier, plusieurs reprises de feu ont pu être contenues. Les pompiers se préparent à une nouvelle journée très compliquée, explique Éric Groin, directeur du SDIS du Var, le service départemental d'incendie et de secours.
Le travail a été de sécuriser toutes les zones avec des établissements de grande longueur. Ça, ça a plutôt bien fonctionné. Ces établissements sont toujours en place de façon à pouvoir éteindre des reprises ou des fumerolles. Ça sera exactement la même journée. Il faudra être encore vigilant, on se méfie du vent d'ouest, qui est un vent où l'hygrométrie est tombée quand même très bas. Et donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour des réinflammations. On a toujours les moyens aériens disponibles. Et on a encore beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont encore présents et qui peuvent intervenir. On est raisonnablement optimiste, mais la vigilance est de mise.
Et dans la Drôme, l'incendie est bientôt circonscrit. Selon les pompiers, ils font face encore à quelques réactivations de feu. 240 hectares partis en fumée.
La lutte contre les incendies qu'un député voudrait financer, Clara, en taxant les industriels du tabac.
C'est la proposition de loi que compte déposer le député Les Républicains de l'Isère, Yannick Neuder. L'ancien ministre de la Santé veut que les fabricants prennent leur part alors que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et qu'ils sont souvent déclenchés par des mégots. Victor Girard, ça fait déjà beaucoup débat.
Si la Confédération des buralistes reconnaît l'urgence d'agir face à la multiplication des incendies,
c'est inacceptable aujourd'hui de voir des gens jeter des cigarettes par la fenêtre.
Son président départemental de Gironde, Antoine Béras, estime que le député se trompe de cible en voulant taxer les industriels.
Il faut s'adresser aux gens qui sont irresponsables. Quand quelqu'un prend l'autoroute en sens interdit, on n'attaque pas le constructeur. Pourtant, il y a des morts qui sont causées. Donc, c'est pas une fiscalité punitive qu'il faut adapter pour résoudre tous les problèmes.
Une nouvelle fiscalité payée par les industriels du tabac qui rapporterait 350 millions d'euros par an à l'État, mais qui s'ajouterait à une éco-contribution déjà en vigueur, destinée à financer des actions contre les jets de mégots notamment.
Non mais tout ça, c'est rien au regard de ce que ça coûte pour l'ensemble de la société.
Répond Loïc Josserand, président de Contrefeu, l'Alliance contre l'industrie du tabac, qui soutient la proposition de loi.
Mettre cette industrie devant ses responsabilités, je pense que c'est une très bonne chose. On est dans la logique de pollueur-payeur. Ne faisons pas peser sur le fumeur, c'est le producteur qui est à l'origine des problèmes.
En cas d'adoption par les parlementaires, la proposition de loi sur la taxation des industriels du tabac entrera en vigueur en 2028.
Du monde sur la route. Aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs selon Bison Futé pour le Nord, le Grand Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Circulation difficile également dans le sens des retours pour le quart sud-est. Demain, c'est rouge partout en France.
Et en pleine vacances, les cambrioleurs se frottent les mains.
Les cambriolages ont augmenté en juillet par rapport à l'an dernier pour les commerces et les logements. C'est une information BFM TV. Thomas Palmier, hausse de 5,8%.
Ce chiffre englobe les cambriolages de logements, résidences principales et secondaires, ainsi que les commerces. Dans le détail, les services de police et de gendarmerie ont constaté 1519 cambriolages supplémentaires le mois dernier, en comparaison avec juillet 2025. Et les logements sont particulièrement ciblés. Les services de l'État ont comptabilisé 18 665 domiciles cambriolés en juillet 2026, contre 17 324 l'année dernière sur la même période. Mais dans son dernier bilan chiffré, révélé par nos confrères de BFM TV, le service statistiques du ministère de l'Intérieur tempère. Il y a bien une hausse en juillet 2026, mais la tendance du nombre de cambriolages est à la baisse depuis début de l'année. Moins 1,2% de cambriolages entre janvier et juillet par rapport à la même période l'an dernier.
Explication de Thomas Palmier. Une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste après une vidéo du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, qui a organisé une conférence de presse clandestine relayée par le seul média invité, Corse Matin, dans laquelle il menace les non-corses qui s'installent sur l'île, Pierre Bazin. Conférence de presse pour rejeter aussi le processus d'autonomie de l'île.
Oui, sur ces images, 15 hommes apparaissent tout habillés de noir, cagoulés et munis d'armes lourdes devant un drapeau du FLNC. Avec le ton robotique d'une voix modifiée, l'un des membres dénonce le projet de loi sur l'autonomie de la Corse, le qualifiant de mascarade, et critique tous ceux qui soutiennent ce projet, mais aussi et plus largement la caste des groupes financiers corse ou encore les collectifs anti-mafia. Et il n'hésite pas à proférer des menaces de mort à destination des Français qui résident dans l'Hexagone, en pointant, je cite, l'arrivée massive de près de 5000 étrangers, dont une grande majorité de Français. Ne vous sentez pas en sécurité sur notre territoire national, lance la voix robotique. Les autorités prennent cette vidéo très au sérieux, qui démontre, selon une source sécuritaire, la capacité de ce groupe à se procurer des armes et à mener des actions violentes.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Un deuxième narcotrafiquant proche de la DZ Mafia interpellé en Algérie, Rachid Djea, considéré comme l'un des parrains de la cité de la Castellane à Marseille. Avant-hier, on a appris l'arrestation de Mehdi Laribi, considéré comme le chef présumé de l'organisation criminelle. Trois candidats à la reprise de Duralex, ils ont déposé leur dossier auprès du tribunal de commerce d'Orléans, alors que la verrerie est placée en redressement judiciaire. Parmi les candidats, il y a l'entrepreneur qui avait racheté Tupperware l'an dernier. Le délai pour déposer une offre est prolongé jusqu'au 11 septembre.
Peu importe les excuses de la FIFA, l'UEFA a dit avoir perdu confiance en Gianni Infantino.
L'instance européenne du football maintient sa menace de boycott des compétitions si elle n'obtient pas l'assurance que de tels nouveaux projets ne voient pas le jour. Projet avorté, vous le savez, d'ouverture à des investisseurs privés. Nicolas Pelletier, hier, c'est la Confédération sud-américaine qui a pris ses distances.
Oui, pour la première fois, cette confédération très proche de Gianni Infantino a publié un long communiqué pour dénoncer, je cite, des décisions unilatérales répétées de la FIFA et d'ajouter le football passe avant tout. La confédération sud-américaine menace même de ne pas renouveler son soutien à Gianni Infantino lors des élections à la présidence de la FIFA en mars 2027. La pression est forte sur les épaules du président de l'instance et son avenir pourrait se jouer dès la semaine prochaine. La fronde devrait s'organiser lors d'une grande réunion de l'UEFA à l'instance européenne en Autriche. Seule éclaircie pour Infantino, le soutien sans faille de la Confédération africaine. Après un comité exécutif hier au Caire en Égypte, l'Afrique a décidé de soutenir à l'unanimité le patron de la FIFA.
Nicolas Pelletier, une deuxième recrue pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale officialise l'arrivée du jeune international français Magnès Akliouche. Il arrive de Monaco et signe pour 5 ans, montant total 50 millions d'euros. Le Tour de France Femmes s'attaque à un monument aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, les coureuses à l'assaut du mythique Mont Ventoux. Pour Stéphane Delcourt, directeur FDJ United Suez, tout peut arriver dans ce col.
Ouais, ça représente tout ce qu'on fait depuis le début du Tour de France Femmes, toujours des arrivées mythiques, toujours des moments importants. Je pense qu'il y aura quand même les conditions climatiques qui vont beaucoup influencer la montée du Ventoux. On lance beaucoup de vent, le vent peut changer très vite de direction en montagne, donc c'est ça qui va être le plus important, ce sera le premier long effort. C'est un Tour de France difficile mais très punchy, avec des montées quand même largement inférieures à ce qu'on va avoir, donc on peut avoir des grosses surprises.
Une étape à vivre évidemment sur RMC. Hier, c'est la Mauricienne Kim Lecourt qui a remporté la 6e étape à Tournon-sur-Rhône. La Suissesse Marlène Reusser, toujours maillot jaune.
Merci beaucoup Clara. Le prochain journal, ce sera à 7h30. Nous nous rendons tout de suite au 32-16. Pour retrouver Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Mathieu, vous nous appelez depuis chez moi, depuis Lille, dans le Nord. Vous faites quoi dans la vie, Mathieu?
Kiné,
très bien. Et vous voulez nous parler de cette proposition faite par un député LR, ex-ministre de la Santé. Son idée, c'est de taxer les industriels du tabac pour financer la lutte contre les incendies. Vous en pensez quoi ?
Bah, je trouve que c'est toujours la solution de facilité. Dès qu'il y a un problème, la seule idée de tous ceux qui nous gouvernent, c'est de taxer. Il y a un problème, on taxe. Il y a un problème, on taxe. Il y a un problème, on taxe.
On peut peut-être pas exclure totalement la responsabilité des industriels du tabac, en sachant qu'un certain nombre d'incendies sont provoqués par des mégots qui sont jetés. Il y a une étude qui est parue, Vinci Autoroute, je crois, la semaine dernière, qui nous disait qu'il y a encore un fumeur sur cinq ou deux fumeurs sur cinq, je ne sais plus, je crois que c'est un fumeur sur cinq, c'est quand même énorme, qui continue, qui admet jeter son mégot par la fenêtre.
Ouais, mais tous les très gros incendies qui ont eu lieu dans les Landes et dans le Var, c'est des zones qui sont inaccessibles en voiture. Donc c'est des gens qui viennent avec des bidons d'essence, qui allument. Moi c'est ce que je disais à c'est Clément, je pense.
Au standard, ouais, tout à fait. Ouais.
Moi je pense qu'à un moment il faut peut-être dissuader en disant que les incendiaires volontaires qui sont pris en flagrant délit, on écourte les jugements, on met 15 ans en prison sans révision de peine, et au moins les gens sont prévenus. Non mais vous voyez pas le nombre de milliers de pompiers qui sont les gens qui sont décédés, les gens qui sont évacués, les gens qui perdent leur voiture, leur maison. À un moment moi je suis désolé, moi je préfère qu'il y ait 2-3 personnes qui prennent 15 ans de prison sans révision de peine plutôt que 350 000 personnes qui sont emmerdées pendant des semaines et des semaines.
Bon, malgré tout, on le sait, on en a encore parlé hier matin sur RMC, RMC Story, les pompiers, ils ont besoin de moyens, il faut de l'argent. Est-ce que cet argent, vous préférez qu'on le prenne sur nos impôts ou qu'on fasse payer un petit peu les industriels?
Bah moi, je préférais surtout qu'on mette pas 50 millions pour refaire l'entrée de l'Assemblée nationale, par exemple.
Oui, on en a parlé hier, aujourd'hui.
À un moment, c'est toujours des questions de priorité. Hein. Mmh. Toujours des questions de priorité.
Vous êtes fumeur ou pas, Mathieu?
Non, pas du tout. Non.
Ah, même pas. Non. Bon. Même pas. Bon, bah, en tout cas, on a bien compris votre position, Mathieu, et vous pouvez continuer à nous appeler au 3216, également à réagir sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Bonne ou pas cette idée d'un député LR sur l'idée donc de taxer les industriels du tabac pour financer la lutte contre les incendies. Vous nous appelez au 3216 RMC. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et je parlais à l'instant du WhatsApp RMC, vous êtes déjà nombreux à réagir, Victor.
Et notamment sur cette proposition de loi à taxer les industriels du tabac pour lutter contre les incendies. Des gens qui ne sont pas d'accord avec Mathieu, tiens. David, qui nous dit, très bonne idée, pour aller un peu plus loin, il faudrait augmenter le prix des cigarettes. Alors, écoutez-nous bien, amis fumeurs, parce que David propose d'aller jusqu'à 25 à 35 euros le paquet, pour être plus dissuasif. Christian, lui, nous dit, quand on sait que les mégots détruisent les forêts, quand on sait qu'ils contaminent des millions de tonnes d'eau, que les cancers coûtent des milliards d'euros à l'État, on se demande pourquoi la vente de cigarettes n'est tout simplement pas interdite. On rappelle qu'en Grande-Bretagne, pour toute une génération, ça a été évidemment étudié. Et puis Yannick, lui, va dans l'autre sens. Taxer les industriels, ça ne va avoir qu'un seul effet, l'augmentation des prix, l'augmentation donc de la vente à la sauvette, et c'est la mort annoncée des buralistes.
Mais justement, 8h45, nous serons avec l'un des représentants des buralistes sur RMC, RMC Story, qui est assez en colère, vous l'entendrez. Allez, c'est une info RMC. Conséquence de la flambée du gasoil et de l'essence, le nombre de boîtiers bioéthanol posés sur vos voitures a doublé en un an. Combien ça coûte? Tous les véhicules sont-ils compatibles? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous êtes déjà passé au bioéthanol? Vous nous appelez au 3216 et Jérôme Loubert, le patron de Flex Fuel, le leader du secteur, est avec nous dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous, RMC, 7h15. Le gazole, de nouveau, au-dessus des 2,20€ le litre en moyenne. Pierre Rondeau, notre économiste qui est à mes côtés, confirme le samplon 95, le samplon 98 qui dépasse allègrement les 2€. Les automobilistes cherchent à trouver des solutions pour rouler moins cher. Et c'est une info RMC ce matin. Les poses de boîtiers de conversion au bioéthanol ont doublé en un an. Le bioéthanol, c'est 80 centimes en moyenne le litre à l'heure actuelle. 500 boîtiers installés en juillet, là, dernier, 2026, contre 250 en juillet 2025. Bonjour, Jérôme Loubert.
Bonjour, Rémi.
Merci d'être avec nous, Jérôme Loubert. Vous êtes le directeur général de Flex Fuel, le leader français de la fabrication de boîtiers homologués, boîtiers bioéthanol. Ces chiffres, c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu, surtout pour un mois de juillet. Habituellement, on a des chiffres qui baissent pendant l'été. Les préoccupations sont ailleurs, mais les départs en vacances sont très coûteux. La route, évidemment, est très coûteuse lorsqu'on doit faire le plein, en plus sur l'autoroute. Et donc, c'est la première fois que les ventes flambent au mois de juillet, puis au mois d'août.
Comment vous l'expliquez? Pourquoi cet engouement-là en ce mois de juillet?
Mais écoutez, vous parliez avec votre auditeur précédemment qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait une taxe. L'éthanol, c'est le contraire. Un problème majeur qui est le pouvoir d'achat et le prix du carburant. L'éthanol, c'est une solution à bas prix, sans taxe. Et donc, c'est un carburant alternatif, écologique, qui permet de faire entre 1000 et 1500 euros d'économie tous les ans.
Vous arrivez à suivre dans vos ateliers la demande?
Oui, parce qu'on a connu... On a connu une très forte augmentation des ventes en 2022. C'était malheureusement déjà un conflit international avec l'Ukraine. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un conflit majeur intervient et a des effets sur le prix du carburant, la solution éthanol revient. Les gens se rappellent que cette solution est là. Les médias en parlent, comme vous aujourd'hui. Et donc, on a une exposition qui nous permet de reparler de ce carburant français, ce carburant à 80 centimes d'euros, vous l'avez dit, et ce carburant transformé les véhicules que les Français ont déjà, pas besoin de réinvestir sur un nouveau véhicule, c'est disponible pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, si tant est que ce soit essence ou hybride essence.
Justement, on va être très concret, pas trop technique, mais très concret. D'abord, est-ce que tous les véhicules sont compatibles?
Alors, la très grande majorité, 90-95% des véhicules essence ou hybride essence.
D'accord, très bien, ça c'est clair. Ça se passe comment? Je fais comment?
Je me rends dans un garage partenaire, donc je dois consulter la carte des partenaires sur le site flexfuel-compagnie.com ou roulerpascher.com, c'est encore plus simple. Et je dois faire un devis chez un professionnel, je dois m'assurer que mon véhicule est compatible et en bon état évidemment avant la transformation.
Ah bah on parle de devis, combien ça coûte ?
Ça coûte entre 500 et 1000, 1200 euros selon les véhicules les plus techniques. La grande majorité des véhicules se trouveront aux alentours de 700 à 800 euros.
Tout compris ?
Tout compris, installation, boîtier, homologation et une visite de contrôle qui vous permettra de vérifier que tout est parfaitement conforme.
D'accord. Et ensuite, ça se passe comment ? Une fois que j'ai mon boîtier bioéthanol qui est installé sur mon véhicule, la pompe, tout simplement, et c'est les pompes bioéthanol, il y en a partout ?
Oui, bien sûr, c'est un simple boîtier électronique qu'on vient ajouter sur le véhicule. Il n'y a pas de changement de réservoir comme avec le GPL. Hein. Il n'y a pas besoin d'un nouveau réservoir, pas besoin d'une grosse transformation. Et ensuite, je fais le plein dans l'une des plus de 4000 stations en France, c'est-à-dire plus d'une station sur trois, qui va me permettre de faire le plein à 80 centimes, contrairement à 1,99€ ou 2€ en ce moment.
D'accord, ouais, c'est très... Mais maintenant, vous nous dites de passer par un garage homologué, parce que il faut pas faire ça soi-même. Je sais qu'il y a des offres, parfois, on vous dit, on vous vend sur Internet, notamment des boîtiers, c'est facile à installer, etc. Mais non, faut vraiment faire attention.
C'est indispensable de s'équiper avec du matériel homologué, sinon votre véhicule risque d'être bloqué en contrôle technique, ou pire, ne plus être assuré.
D'accord, et en prime, la pose, c'est pareil, c'est la pose, il faut être garanti que ça soit fait par un garagiste homologué, parce que j'imagine qu'il y a une garantie d'installation aussi.
Bien sûr, une garantie d'installation, une garantie du produit pendant 2 ans, et il faut que ce soit réglé par un professionnel de l'automobile qui est en capacité de vérifier votre véhicule et de faire la transformation dans les règles de l'art.
Aujourd'hui, il y a 11 millions, si je me trompe pas, de véhicules qui seraient compatibles en France.
Tout à fait,
il y en a 400 000 qui sont passés au bioéthanol. Ça fait quand même pas beaucoup sur 11 millions.
Mais vous avez raison, c'est une solution qui malheureusement, contrairement aux véhicules électriques ou autres qui sont très forcément aidés par l'État, qui n'est pas très mise en avant. Et donc c'est une solution alternative dont il faut plus parler, je ne vous le fais pas dire.
Bon, on ne fait pas ce qu'on dit dans notre langage, on ne fait pas du pubi-reportage, on n'est pas là pour vous faire de la pub, mais voilà, c'est juste, on essaie d'être concret. Et David est avec nous au 3216. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre au 3216 sur RMC, RMC Story. David, vous êtes dans le Lot-et-Garonne, c'est ça ?
Exactement, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, je suis commercial, voilà, sur plusieurs départements.
Donc, beaucoup de routes ?
Beaucoup de routes, à peu près 75-80 000 km par an.
Ce qui est pas négligeable. Et vous êtes passé au bioéthanol ?
Tout à fait, voilà.
Pour votre voiture personnelle ?
Alors non, pour mon véhicule de fonction, justement, voilà. Ce sont des véhicules qui sont équipés d'origine éthanol.
D'accord.
Voilà, donc je roule avant avec des diesels, qui étaient le plus économique par rapport au kilométrage. Tout simplement, j'ai réduit par deux ma facture de carburant mensuelle. Donc de 750€ de gasoil par mois, je suis passé à 300€ en éthanol.
Ouais, ça fait une sacrée différence.
Une grosse économie, tout à fait.
Ouais, ça fait une sacrée différence. Et pas de changement sur
pas de changement. Ça
à part l'installation du boîtier.
Alors même pas, parce que certaines marques, je ne sais pas si je peux citer la marque, sont déjà équipées d'origine 100% éthanol.
D'accord. Voilà, Jérôme Loubert, un témoignage qui va dans votre sens. Jérôme Loubert, une dernière question. Est-ce que, une fois que j'ai installé un boîtier bioéthanol, bon, finalement je change d'idée, est-ce que je peux revenir en arrière ?
Alors oui, c'est possible, mais normalement, une fois que vous aurez fait le plein pour la première fois à la station et que vous verrez les litres défiler plus vite que les euros, vous aurez une sainte horreur du carburant sans plomb et vous ne reviendrez pas en arrière.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à David d'avoir été avec nous au 3216. Merci Jérôme Loubert, directeur général de Flexfuel, leader français de la fabrication de boîtiers homologués. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On va parler des duos iconiques de la chanson francophone. Je peux notamment vous dire qu'il y aura du Céline Dion. Et puis le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Bon, on vient de parler des prix des carburants qui s'envolent. Et il y a autre chose qui prend en ce moment, ce sont les taux d'emprunt.
Les taux d'emprunt, les taux des crédits immobiliers. Oui, devenir propriétaire, c'est toujours plus galère.
Allez, on se retrouve dans 40 secondes, c'est précis, sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h23.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Ça ne va pas rassurer Pierre, le marché immobilier, mais les taux de crédit repartent à la hausse.
Oui, malheureusement, selon les dernières données publiées par la Banque de France et relayées par l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen accordé aux nouveaux crédits immobiliers a atteint hors assurance 3,27%. 3,27%, il faut revenir à février 2025 pour retrouver un taux comparable. Et surtout, oubliez les périodes très fastes entre 2018 et 2022, lorsque les taux moyens de crédit tournaient autour des 1,5%. Aujourd'hui, si on rajoute tous les frais annexes, assurances, frais de garantie, courtier, on se retrouve avec un taux moyen d'emprunt sur 20 ans de 3,97%. Donc sur 20 ans, pour rendre compte, c'est 45 000 euros de coûts tous les 100 000 euros empruntés. Pour vous donner un exemple, si vous voulez acheter une maison par hasard à Saint-Malo, à 350 000 euros, cela vous coûtera au total 507 500 euros, dont 157 500 euros pour le seul coût des intérêts.
Je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de te payer un café ce matin. Comment Pierre, expliquer cette augmentation ?
Tout simplement la détérioration financière de la France. Les banques se financent via des emprunts calculés sur le taux des obligations de la France. Pour faire simple, le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés. Or, si la situation économique de la France se détériore, si son déficit augmente, les investisseurs perdent confiance, son taux d'emprunt augmente, ce qui est précisément le cas. 107 milliards d'euros de déficit depuis janvier 2026. Et ça se répercute directement sur les taux des banques et donc sur le taux des crédits immobiliers.
Avec des conséquences négatives à prévoir.
Ah oui, malheureusement, une hausse des taux sur les crédits immobiliers, c'est d'abord une capacité d'emprunt en baisse et donc un ralentissement sur les marchés immobiliers. Ensuite, si le coût de l'emprunt augmente, c'est donc plus d'argent consacré au remboursement du crédit et moins à autre chose, à la consommation de manière générale, et donc une baisse de la demande globale. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, puisque d'après l'Observatoire Crédit Logement CSA, les sommes empruntées ont culminé à 13,2 milliards d'euros en juin, soit un niveau équivalent à 2022. Reste à savoir si cela va durer.
Merci beaucoup Pierre. Pierre Rondeau, on se retrouve après le journal de 8h avec un chiffre qui baisse cette fois. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ce sont les ventes de vélos. Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. Arthur Chevalier en chanson ce matin.
On l'entend, c'est cette nouvelle chanson dévoilée cette nuit de Céline Dion. Elle est sortie donc sur toutes les plateformes d'écoute cette nuit. Une chanson qui n'a pas été écrite par n'importe qui, puisque c'est un titre de Jean-Jacques Goldman, à qui Céline Dion doit déjà beaucoup.
Et oui, elle lui doit même en partie d'être devenue une star en France. Au début des années 90, Céline Dion perd sur le marché américain, mais en France, elle débute tout juste. Alors, elle est un peu connue, mais rien à voir avec aujourd'hui. Et justement, le premier qui la repère, c'est Jean-Jacques Goldman, en 1994. Il l'invite à chanter avec lui pendant un concert des Enfoirés, un duo où ils reprennent un de ses tubes qui s'appelle Là-bas.
Et c'est le début d'une très longue et belle collaboration.
Un coup de foudre artistique qui va se traduire très vite par un album que Jean-Jacques Goldman va écrire pour Céline Dion. Cet album, il sort en 1995. Ça s'appelait 2DEUX, que des tubes avec cette chanson mythique. Un succès phénoménal, 12 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est le disque de langue française le plus vendu de tous les temps.
Et pour vous, c'est le couple artistique le plus légendaire de la chanson française?
Alors oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et pas des moindres. L'histoire de Charles Aznavour et Edith Piaf ressemble d'ailleurs un peu à celle de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. En 1946, Edith Piaf est déjà une énorme star. Aznavour, lui, a 22 ans, il commence sa carrière et il va avoir la chance de sa vie puisque Piaf l'entend chanter pendant un concert. Elle l'adore, elle l'invite à dîner. C'est le début d'une amitié et aussi un coup d'accélérateur pour la carrière d'Aznavour.
Charles Aznavour devient même la personne la plus proche d'Edith Piaf.
Et oui, il la suit partout, ça devient un peu son homme à tout faire, chauffeur, réparateur, secrétaire, mais surtout, Aznavour va lui écrire des chansons mémorables, dont un chef-d'œuvre en 1951.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux.
Et leur amitié allait loin. Une anecdote le prouve à Pauline. Edith Piaf trouvait qu'Aznavour avait un gros nez, beaucoup trop gros nez pour faire carrière. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va carrément lui payer une opération de chirurgie esthétique pour qu'il se le fasse refaire. Et oui, c'est Piaf qui a payé ça.
Bon, et puis bien sûr, il y a Serge Gainsbourg et France Gall.
Là encore, une relation artistique intense qui commence en 1963. Gainsbourg est déjà une icône. France Gall est une jeune chanteuse qui fait danser la France des yéyés. Gainsbourg se met à lui écrire des chansons et ça va très bien fonctionner, puisqu'en 1965, elle remporte l'Eurovision avec un morceau de Gainsbourg, Poupée de cire, Poupée de son.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin.
RMC 7h28, dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Bouidz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le ras-le-bol des habitants des Vosges face aux nuisances sonores des locations saisonnières. Les habitants de la Bresse réclament des zones de quiétude. Le climat bouleverse le calendrier des vendanges. Elles ont déjà débuté dans de nombreuses régions. Et un saut dans le vide aujourd'hui avec la Tour Eiffel en ligne de mire pour les meilleurs plongeurs européens.
Clément, les locations saisonnières, une nouvelle fois sous le feu des critiques.
Le calme n'est plus qu'un lointain souvenir dans les Hautes-Vosges. Les habitants de la Bresse sont à bout, confrontés à des locations saisonnières et donc des fêtes incessantes, des incivilités. Et certains réclament désormais des zones de quiétude. Notre correspondante dans la région, Lucille Pascanet, s'est rendue sur place pour RMC.
Sur la banderole rouge qu'installe Annick Vaxeler à l'entrée de son lotissement, en grandes lettres, zone de quiétude, résident permanent. Un message pour les locataires des grands chalets juste à côté, parfois trop fêtards et souvent irrespectueux.
On leur prévient qu'ils sont à côté de maisons avec des résidents permanents et qu'on souhaite vraiment qu'ils utilisent leur location de manière vertueuse.
Annick vit ici depuis une vingtaine d'années, mais depuis 2018, elle ne dort plus.
Bamboula, 23, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. C'est des nuits compliquées pour aussi les enfants. Ça impacte fortement notre santé. On arrive à un point où c'est difficilement supportable.
Il y a 2 ans, les riverains ont fondé un collectif et cette semaine, ils ont échangé avec le maire Pierre Mangin, mais aussi avec le député des Vosges et d'autres édiles de communes touristiques alentour.
Depuis quelques années, on est passé à un peu plus de 50% de résidences secondaires et moins de 50% de résidences principales. Voilà, préserver ces équilibres, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Le premier pas, c'est maintenant de mesurer les nuisances pour formuler ensuite des propositions et aboutir peut-être à de nouvelles règles.
L'incendie dans l'Aude est fixé.
Un an après le feu ayant ravagé le massif des Corbières, un incendie s'est déclaré hier après-midi sur la commune de Montserré, près de Narbonne. 100 hectares ont été parcourus par les flammes. Le maire de Saint-André-de-Roquelon, Jean-Michel Folk, se dit rassuré, mais pas complètement serein.
C'est, on va dire, le soulagement, parce que, du bois a brûlé, mais à quelques mètres près ou à quelques minutes près, il aurait pu y avoir un lotissement entier qui brûle. Les risques qu'il y avait par rapport aux habitations sont effacés, donc a priori, on est plutôt bien. On fait tout ce qu'on peut en termes d'éducation, en termes d'interdiction d'accès, en termes de surveillance. Mais bon, c'est vrai que c'est très difficile de faire respecter les obligations légales de débroussaillement. On va dire que c'est un avertissement sans frais. Malheureusement, on sait qu'un jour, il y aura le feu.
Sébastien Lecornu attendu avec plusieurs ministres en Gironde le 17 août prochain. Objectif évoquer la reconstruction des zones sinistrées par l'incendie qui a brûlé 42 000 hectares.
Clément, c'est la conséquence des très fortes chaleurs de ces dernières semaines du dérèglement climatique. Le raisin mûrit de plus en plus vite.
Et les vendanges ont déjà commencé en Champagne, en Alsace ou encore en Gironde. Du jamais vu en France, certains vignerons sont donc obligés de demander une dérogation pour cueillir le raisin plus tôt. Bernard Farge, co-président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Les vendanges 2026 vont être caractérisées par une précocité pratiquement jamais connue dans tous les vignobles français. Et cette année, on a une précocité de pâtiment 15 jours à peu près partout. Donc 2 semaines, c'est beaucoup. Nous voyons qu'avec les différentes canicules, la sécheresse qui est très présente dans la plupart du vignoble, les vignes poussent plus tôt, les vignes ont des cycles végétatifs plus réduits. Et donc tout ça, c'est évidemment lié au changement climatique.
Les vacances font le bonheur des cambrioleurs. Hausse de 5,8% des cambriolages de logements et de commerces en juillet par rapport à l'année dernière, selon BFM TV. Pour les habitations, la hausse est encore plus forte, plus 7,7%. En 1 an.
Une nouvelle démonstration de force du FLNC qui fait réagir la justice.
Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête après les menaces proférées par l'organisation séparatiste. Elle rejette en bloc le projet d'autonomie de Lille, parle de mascarade, demande aux Français non-corses de rester chez eux. La vidéo de leur conférence de presse a été relayée mercredi soir par Corse Matin et a fait également réagir les élus, Sonia Gobry.
Inquiet, André Pacou, délégué de Corse de la Ligue des droits de l'homme, craint une nouvelle spirale de violence.
Ça nous inquiète dans le sens où on risque d'avoir une reprise d'attentats, notamment par exemple des résidences secondaires, et puis après de réactions de l'antiterroriste de répression. Ce cycle-là, on le connaît très bien. On sait très bien que c'est un enfermement politique.
Mais il estime que l'État a aussi sa part de responsabilité en n'écoutant pas suffisamment, selon lui, les revendications. Le député autonomiste de la Haute-Corse, Michel Castellani, acquiesce.
Si nous prêchons dans le désert, après ça juste
justifie en quelque sorte les réactions comme celles du FLN.
Quant aux menaces du groupuscule indépendantiste,
je prends acte, moi je ne me permets pas ni de juger ni de condamner.
Michel Castellani a voté pour le projet d'autonomie de la Corse. Il est donc visé quand le FLNC s'en prend, je cite, aux manipulateurs haut placés accusés de duper le peuple corse.
Je ne suis ni manipulateur, ni haut placé, ni un dupeur de personne. Je suis un pauvre député. J'essaie de tirer le maximum de ce que je peux de compétences pour mon peuple, pour sa langue, pour ses intérêts économiques.
Il dit préférer la politique des petits pas, le combat démocratique au combat armé.
Faut-il craindre ces menaces du FLNC? À 8h13 sur RMC, nous serons avec Jacques Folleroux, journaliste au Monde, spécialiste de la Corse.
Le chômage repart à la hausse en France. Son taux augmente de 0,2 points à 8,3%, son plus haut niveau depuis 2020, annonce ce matin à l'INSEE. Organisez-vous si vous avez un vol EasyJet. Aujourd'hui, c'est le début de la grève des hôtesses et stewards. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Des perturbations et des annulations sont donc à prévoir. Ce mouvement doit durer un mois.
Rien à voir avec les avions, mais ce soir, levez les yeux au ciel.
Les Nuits des Étoiles démarrent pour 3 soirées exceptionnelles. Près de 500 rendez-vous partout en France pour observer les planètes, galaxies, étoiles filantes avec l'aide de 2000 passionnés mobilisés pour faire rêver les petits et les grands. Delphine Nguyen, vice-présidente de l'Association française d'astronomie.
Voilà, quand on peut montrer aux gens la première fois qu'ils regardent la Lune ou Saturne, il y a une émotion. Les gens regardent en disant « Oh !» et partager ça avec les gens, c'est fabuleux. Et ça vous redonne la dimension de votre propre personne, de ce que vous êtes, de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire quelque chose un peu perdu sur ce vaisseau qu'est la Terre, qui circule dans l'univers. Et je pense que c'est un peu ce vertige qui est en même temps enivrant, parfois un peu terrifiant. Et c'est ça qui fait vibrer les gens.
Une carte postale grandeur nature pour les plongeurs au championnat d'Europe de natation.
Ils vont évoluer face à la Tour Eiffel, l'un des plus beaux décors du monde. Hein, mais Clément Brossard, ce cadre spectaculaire demande aussi quelques adaptations.
Le métro ralentit quand Carole, résidente parisienne, aperçoit une plongeuse en plein entraînement.
Ah mais oui, là, ouais, c'est impressionnant.
Ouais. Ex-plongeur de haut vol, Hassan Mouti a participé à l'organisation de l'épreuve.
On a eu plusieurs réunions avec la RATP, donc on a dû travailler tant de nuit dessus justement pour avoir cette partie haute, pour être sécurisé. Pendant l'événement, le métro passe au ralenti, comme ça on évite d'avoir des petites secousses qui pourraient un peu déstabiliser le plongeur.
Un sentiment étrange pour l'athlète suisse Morgan Herculano.
Il y a quelques éléments auxquels je ne m'attendais pas trop. Le métro derrière, c'est assez atypique. Ouais, le bruit, le mouvement... Et puis juste, je suis en maillot de bain, il y a le métro derrière qui passe, donc c'est un peu unique. Ouais.
Un tel cadre, Madeleine Bayon, seule française en compétition, en rêvait.
C'est magnifique. Honnêtement, c'est une vue, j'en ai pas les mots, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadre pour plonger. C'est génial.
Son compatriote français, Gary Hunt, laissera lui la fascination de côté pour se concentrer sur son objectif.
Et c'est la médaille. J'ai vu qui sera là, je me sens capable. Mon seul objectif, c'est finir sur le podium.
Et en mettre plein la vue au public qui pourra gratuitement suivre le spectacle depuis les quais de Seine.
Les championnats d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur RMC. La Mauricienne Kim Lecour a remporté hier au sprint la 6e étape du Tour de France femme. Place aujourd'hui à l'étape reine. Le peloton va s'attaquer au Mont Ventoux. C'est à suivre à 15h sur RMC. Et le PSG renforce son secteur offensif. Le Monégasque Sakliouche s'est engagé jusqu'en 2031 avec le club parisien. Montant du transfert, 50 millions d'euros. L'OM va vendre son défenseur Medina, 25 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Enfin, Vinicius prolonge de 5 ans avec le Real Madrid. Le Brésilien a su bien négocier son salaire. Il touchera 25 millions d'euros par an.
Clément, si on allait faire un tour du côté de Cabourg, en tout cas c'est là que se disputera le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome à 20h15.
Et allons-y, là, le pronostic de la Dream Team des courses nous propose leur favori, le 9 Joker d'Amaro, leur outsider, et le 6 Jockey.
Merci Clément, prochain journal ce sera à 8h. Lionel est avec nous au 32-16. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est dans les Alpes de Haute-Provence.
Absolument.
Dans quel coin?
Moustier-Sainte-Marie.
D'accord, Moustier-Sainte-Marie. Et vous roulez au bioéthanol?
Non, pas du tout. Moi, je suis en électrique depuis 5 ans. Mais ma réflexion, c'est le bioéthanol aujourd'hui est quand même constitué d'une très grande partie d'essence E95.
15 à 35%.
Exactement. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment, les taxes, on les met pas, ce qui permet d'avoir un prix à la pompe très bas. Mmh. Et demain, l'État, s'ils veulent récupérer leur argent, ils vont augmenter les taxes. Ouais, sachant que l'éthanol coûte plus cher à produire que de l'essence, d'accord.
Mais c'est plus écologique, Lionel, aussi, que du sans-plomb pur et dur.
Oui, bien sûr.
Mais il y a quand même l'aspect écologique dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que on sait. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que nous étions à l'instant avec le patron de Flexfuel, qui est un fabricant de boîtiers bioéthanol. On se focalise beaucoup aujourd'hui sur le prix des carburants, oui. Mais il y a quand même un aspect écologique aussi au bioéthanol.
Oui, non, mais quand on regarde aujourd'hui une voiture essence, on peut plus parler d'une pollution comme elle existait il y a 20 ou 30 ans. Je crois que la solution, si vous voulez, pour le pouvoir d'achat, c'est pas d'avoir des solutions complexes comme le bioéthanol, qui est difficile à compléter. Il faut savoir que l'hiver, il y a plus d'essence parce que avec l'éthanol, ça a du mal à démarrer. Non, la vraie solution, c'est la baisse des taxes sur le 95. C'est tout. Ils savent le faire sur le bioéthanol.
Ou l'électrique, comme vous, Lionel. Peut-être.
Ah ben, oui, oui. Surtout que moi, en électrique, j'ai moins de problèmes à trouver une borne pour recharger ma voiture qu'une station qui est fait de le 85. Parce que dans la région de le 85, on n'en trouve pas. C'est très difficile. Donc, si vous voulez, moi, l'électrique, j'en parle pas. Parce que...
Oui.
On
comprend que sur le bioéthanol, en tout cas, vous avez encore beaucoup de doutes. Merci, Lionel, voilà. D'avoir été avec nous au 32-16, Lionel qui nous appelait depuis les Alpes de Haute-Provence, RMC, 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor Pourchet est toujours à mes côtés. Victor, pour lire les messages qui nous parviennent sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424 et sur l'application RMC, également sur Direct Studio.
Et notamment sur cette question du bioéthanol. On a Eric qui a un peu le même avis que Lionel finalement et qui nous dit, bah oui, ça semble intéressant, mais à long terme, quand l'État va se rendre compte du manque à gagner, il va rétablir les taxes, j'en suis sûr. On a aussi Hicham qui est passé au bioéthanol depuis 2022. Il a converti sa voiture, il fait le plein et il fait les comptes surtout avec nous. C'est 30 à 40 euros le plein pour 600 km d'autonomie. En gros, nous dit-il, Hicham, c'est du diesel d'avant-crise. On a aussi Dorian qui est passé à l'éthanol il y a 5 ans, avec en plus, il faut le dire, des aides de sa région et de sa ville. Ça ne m'a quasiment rien coûté finalement, nous dit Dorian. Mais attention, attention, parce qu'il nous explique qu'il a eu des problèmes récemment avec sa voiture et que son constructeur n'a pas voulu la reprendre, justement parce que son véhicule était équipé de ces fameux boîtiers bioéthanol.
La vitesse fatigue. Alcool, protoxyde d'azote en août, c'est gros danger sur la route. Week-end de chasse et croisée, 10 millions de Français sur les routes, 341 morts l'an passé sur le mois d'août, c'est le mois le plus meurtrier de l'année. Bonjour Erwan Coiffard, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Gendarmerie Nationale, on se retrouve dans un instant. Malgré la prévention, les sanctions, le nombre de morts sur la route repart à la hausse. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Vous nous répondez dans un instant sur RMC et RMC Story. Vos témoignages au 32-16, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. En août, danger sur la route. Erwan Coiffard est avec nous, porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Plus de 10 millions de personnes sur les routes ce week-end. C'est un chassé-croisé, c'est rouge demain dans le sens des départs et des retours dans toute la France. Et puis ce constat, le mois d'août, c'est le mois le plus meurtrier de l'année sur les routes françaises. 341 personnes y ont perdu la vie l'an passé sur les routes. Plus largement, la mortalité routière est repartie à la hausse en 2025. Hein, 3515 morts. On peut y ajouter, on va en parler, le fléau en pleine explosion. En pleine expansion, celui du protoxyde d'azote. Ce week-end, à quoi faut-il s'attendre sur les routes et quel est le dispositif mis en place par la Gendarmerie Nationale?
Alors, vous l'avez dit, hein, sur le week-end, c'est près de 10 millions d'automobilistes qu'on va avoir sur nos routes. Vous évoquiez le chiffre de 341 morts en août de l'année dernière. C'était le mois le plus mortel depuis 2011. Donc, on était vraiment sur un phénomène particulier, singulier. On ne veut pas que ça se reproduise. Donc, il y aura une présence sur les routes, évidemment, mais il suffit pas juste d'être présent le jour J, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les instants. Il faut avoir en tête que la gendarmerie fait près de 240 actions de sensibilisation par jour pour sensibiliser à la fois les plus jeunes, les enfants, par le biais par exemple du permis piéton, mais également par des ateliers de démonstration sur les aires d'autoroute. Donc on n'est pas uniquement dans la répression, on est aussi dans la prévention.
Il y a aujourd'hui... un dispositif qui est quand même important, je pense notamment au radar. Voilà, tout le monde s'est rentré dans l'esprit de tout le monde. Malgré tout, vous dites que 341 morts en août de l'année dernière, c'était du jamais vu depuis 2011. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un relâchement des comportements?
Alors, je pense pas que ce soit un relâchement des comportements, ou en tout cas uniquement. Il y a plusieurs facteurs. Systématiquement, il y a plusieurs facteurs, et c'est la raison pour laquelle commenter des chiffres de sécurité routière est toujours très particulier. Si vous voulez, sur des événements où vous avez 10 millions de personnes qui sont sur les routes, on va avoir des séquences sur lesquelles les voitures sont les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'élément de vitesse. Donc on a à la fois un phénomène avec beaucoup de monde, un fort engorgement, et donc ça va potentiellement se répercuter sur le réseau secondaire. On va être sur des plus petites routes. On est aussi sur une période, tout simplement, durant l'été, durant laquelle la consommation d'alcool, vous l'évoquiez, en rapport avec tout simplement le climat, le fait que les personnes sont en vacances, augmente. Donc c'est surtout beaucoup de facteurs et beaucoup de comportements conjugués qui amènent à ces résultats.
On voit des messages de prévention désormais sur le protoxyde d'azote, sur les panneaux autoroutiers. Est-ce que c'est devenu un sujet de sécurité routière à part entière ?
Totalement, totalement. C'est un véritable fléau. C'est le fléau de cette année. C'est un produit qui n'est pas utilisé, qui au départ n'a pas vocation à être inhalé et qui a été utilisé de façon détournée pour le faire. Donc, on était sur des décisions d'arrêtés préfectoraux pour interdire le transport, la détention, parce qu'en fait, on était face à un vide juridique. C'est un vide juridique qui est comblé depuis, à travers ce qu'on appelle la loi Riposte, qui est passée devant le Sénat, puis devant l'Assemblée nationale, et qui permettra dans peu de temps de créer un véritable délit d'inhalation, et donc qui donne des éléments supplémentaires aux policiers comme aux gendarmes pour agir et pour lutter contre. On attend les décrets d'application, tout à fait. On est en train d'attendre les décrets d'application, mais à compter de février, on espère qu'on va pouvoir mettre ça en œuvre.
Bon, vous qui êtes sur le terrain, les gendarmes au quotidien, le provir au protoxyde d'azote, pour y rester sur le protoxyde d'azote, c'est quel type de population ? Parce que j'imagine c'est beaucoup de jeunes, non ?
C'est plutôt jeune, effectivement. On a plutôt affaire à des jeunes.
Donc c'est sur l'aspect festif, gaz hilarant.
On est totalement dans l'aspect festif. C'est exactement ça.
Autre chiffre de cet été, ça c'est une info qui nous est donnée par nos collègues de BFM TV, les cambriolages ont augmenté de près de 6% au mois de juillet. Est-ce que là, encore une fois, c'est un chiffre qui vous étonne ?
C'est pas un chiffre qui m'étonne, évidemment je le déplore. En fait, on fait suite à un premier semestre sur lequel les cambriolages étaient en baisse, et sur la période estivale, tristement, avec tout simplement les départs en vacances, on est sur un des deux pics de cambriolage qu'on connaît dans l'année. Le deuxième, c'est au changement d'horaire à l'arrivée de l'hiver. Voilà, ce sont les deux périodes sur lesquelles on sait, malheureusement, qu'on a des cambriolages qui sont en augmentation. Alors on met en place des dispositifs, notamment un qui s'appelle Opération Tranquillité Vacances, qui est encore trop peu utilisé. C'est seulement quelques dizaines de milliers de personnes qui y ont recours, alors qu'en fait, on a des millions de personnes qui partent en vacances. Donc n'importe quel Français peut se signaler auprès de son commissariat ou de sa brigade de gendarmerie pour donner ses dates de vacances aux forces de sécurité qui vont venir, dans le cadre de leur patrouille, vérifier les domiciles et donc renforcer leur présence aux abords de ces domiciles.
Les gendarmes, on le sait, ils sont également massivement mobilisés actuellement sur les incendies. Vous traquez les incendiaires.
On a renforcé, au même titre que tous les ans, on renforce notre présence en même temps que l'augmentation de la population se fait sur les zones d'affluence saisonnière. On a envoyé plus de 300 gendarmes mobiles dans différents départements, puisqu'on constate un risque incendiaire d'autant plus important. Et donc, on a 330 gendarmes mobiles qui sont déployés dans différents départements, comme les Bouches-du-Rhône, mais aussi les Landes, le Var, la Gironde, pour renforcer notre présence dans les massifs forestiers, à la fois pour veiller à l'application des arrêtés préfectoraux, soit d'interdiction d'accès, soit de restriction, et surtout pouvoir réagir plus rapidement en cas de départ de feu.
En un mot, Erwan Coiffard, porte-parole de la gendarmerie nationale, très très court. Vous êtes le porte-parole officiel de la gendarmerie, donc c'est toujours compliqué de répondre directement comme ça, mais sincèrement, est-ce que la gendarmerie, aujourd'hui, je parle notamment en effectif, a les moyens d'assurer la diversité de ses missions ?
Oui, tout à fait, mais c'est une question de bascule de force. C'est de la même façon que je vous disais, la population augmente l'été sur les côtes. Donc nous, en fait, on fait basculer nos forces depuis des zones dans lesquelles la population est moins présente vers les zones où elle l'est plus. Donc on a ces moyens.
Merci Erwan Coiffard, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et RMC Story. RMC, il est 7h50. Dans un instant, le portrait du jour, Victor Pourchet. On parle de qui ?
Alors, duel au sommet du foot mondial. Je vais vous présenter l'ennemi juré du patron de la FIFA.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h51, le bonus RMC de Charlène. La chanteuse Carol G sort son nouvel album aujourd'hui.
Un
Un album surprise annoncé en pleine tournée mondiale il y a quelques jours, le titre nommé Arrepiento de sentir tanto en français. Je ne regrette pas de ressentir autant de choses, et à 35 ans, Karol G peut se dire qu'elle a bien fait de persévérer. À ses débuts, elle avait même pas franchi les premières sélections du télécrochet X Factor, et désormais, star du reggaeton, elle multiplie les collaborations Shakira, Bad Bunny ou encore Nicki Minaj. Et sur ce sixième album, elle s'est encore bien entourée, Drake, Bruno Mars. Elle va donc adapter les titres de sa tournée.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h52, le portrait du jour avec vous, Victor Pourchet. Ce matin, vous nous présentez Alexander Seferin. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Seferin,
le patron de l'UEFA, l'instance européenne du foot.
En guerre actuellement avec la FIFA, l'instance mondiale du foot. C'est sous l'impulsion de Seferin que l'UEFA a redit hier que ses fédérations européennes ne participeraient pas à la prochaine Coupe du Monde. Énième coup de pression pour faire abandonner le projet d'ouvrir la compétition à des investisseurs privés, mais qu'il entend, Seferin, désormais poursuivre jusqu'à l'éviction du président de la FIFA, Gianni Infantino.
Bon, on va pas se le cacher, ils n'ont pas l'air d'être les meilleurs amis. Hein,
bon, ce sont là, franchement des adversaires, pour pas dire plus. Si Infantino, le Suisse italien, dit quelque chose, comptez sur le Slovène Seferin pour le dézinguer. Le carton rouge annulé par la FIFA après un caprice de Trump, une ligne rouge franchie. La Coupe du Monde à 64 équipes, une mauvaise idée. Et quand Infantino est en retard à un congrès, parce qu'encore occupé avec Donald Trump, Seferin mène la grève de certains dirigeants, l'accusant de faire de ses intérêts politique privée, une priorité est de vendre le football. Ce sont ces mots. Je pourrais continuer des heures, tous les opposent, même leur manière de travailler. Infantino jusqu'au bout de la nuit, alors que Seferin est réputé attaché à sa vie de famille. Je ne suis la marionnette de personne, dit-il, hormis peut-être celle de mes trois enfants.
Alors qui est-il exactement? Une sorte de Robin des Bois du foot?
Ouais, il a plutôt un physique de méchant dans James Bond. C'est surtout un ancien avocat de 58 ans, devenu un politique très malin, presque un stratège militaire, lui qui a servi lors des guerres en Yougoslavie. Je comprends aussi bien les Européens de l'Ouest que les Européens de l'Est. J'ai des yeux ici et des yeux là, expliquait-il en 2019. Deux ans après, une polémique, une enquête révèle qu'il ne remplissait pas les conditions pour être élu, à l'époque, président de la Fédération slovène de foot. Mais son seul rival s'était retiré, dénonçant une campagne trop sale de Seferin. C'est aussi un aventurier. 5 traversées du Sahara à son actif. Une petite traversée du désert, c'est sans nul doute ce qu'il souhaite à son rival.
Merci beaucoup, Victor Pourchet, RMC 7h54.
RMC,
dans vos villes.
Ouais, tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales. On parlait de ce week-end intense de chasse et croisée. Eh bien, on verra sans doute des files de voitures, des bouchons en plein milieu de quartiers résidentiels dans des petites villes. C'est la conséquence de l'utilisation des applications GPS comme Waze, qui nous propose des trajets rapides sans forcément se soucier de ce qu'il y a sur le chemin et autour. Des maires tentent de trouver des solutions face à ce phénomène. Célestin Bougère, vous vous êtes rendu en Seine-et-Marne où la situation est difficile à vivre pour les habitants.
Si je me mets dans la peau d'une personne qui habite à Marne-la-Vallée et qui travaille à Évry, je mets mon GPS et là on m'indique 2 chemins différents, un qui nous fait passer par la N104 et un autre qui nous fait passer par la ville de Lieusaint qui nous fait gagner 6 minutes. Je pars justement à la rencontre du maire de Lieusaint, Michel Bisson. Il mène un combat contre Waze depuis plusieurs années.
On m'a affublé de maire anti-Waze. Moi, j'utilise Waze quand j'en ai besoin. Voilà.
Michel Bisson m'ouvre la porte de son bureau et déploie tout de suite une carte.
Waze oriente les véhicules pour sortir de la Francilienne à la sortie 25, pour la rejoindre ensuite à la sortie 27. Donc, on le voit ici, dans une zone résidentielle. Donc, c'est un flux continu de voitures et même un bouchon.
Et c'est ça, du coup, vous avez ça tous les matins?
Presque tous les matins.
On se rend dans ces quartiers résidentiels entre Lieusaint et Tigery. Entre 8h et 9h, une file de voitures interminable se forme ici, dans des petites rues à côté d'une école et d'un collège, et juste devant des maisons avec des habitants exténués.
On est arrivé ici il y a plus de 30 ans. Il y avait 3 voitures qui passaient dans la rue. Aujourd'hui, tous les matins, il y en a plus de 1000. Alors, il y a le bruit, la pollution.
C'est pesant pour moi dans le sens où je suis obligé de décaler mes horaires de travail. J'ai du mal à partir parce qu'effectivement, il y a une file de voitures, donc je suis obligé d'attendre.
Avec le maire, on rentre chez Lucien. Il vit avec sa femme et ses enfants ici. Il pense avoir trouvé la solution.
Après, je peux plus que vous soyez là, mais le sens interdit, sauf riverain,
pourrait marcher. Hein.
Non, on ne peut pas. La seule solution qu'on avait, c'est de mettre en sens interdit de 8h à 9h. On est sur Tigerie. Ben, c'est pas moi de faire, c'est au maire de Tigerie. Ouais, je peux pas, quoi.
On compte sur vous pour continuer à vous battre, mais c'est pas normal.
Et l'unique solution trouvée par le maire, elle se trouve à l'entrée de la ville. Michel Bisson me montre le feu tricolore qu'il a installé. Il s'active seulement aux heures de pointe.
Arrêter la circulation pendant 1 minute 30 à 2 minutes, ce qui est évidemment très long pour un feu, c'est qui permet aux écoliers de traverser, aux collégiens de traverser, aux voitures de sortir de chez elles et aux bus de pouvoir passer.
Sur cette solution-là, vous avez vu quand même des améliorations?
Des améliorations sur le nombre de véhicules traversant, non, en tous les cas pas de manière significative. Des améliorations à travers ces espaces de respiration qui permettent de sortir de chez soi tout simplement, là, oui.
Pour Michel Bisson, c'est à Waze de supprimer ce trajet. Il a contacté récemment les fondateurs de l'application sans succès.
Faire en sorte de ne pas orienter sur des lieux résidentiels, de ne pas orienter à côté d'une école, à côté d'un collège. Nous renverrer le message d'une société où on souhaite que l'humain et l'écologie soient présents à tous les instants de notre vie.
Le maire en appelle aussi à la responsabilité de tous. Il espère que les automobilistes qui passent par sa ville l'entendent et changent par eux-mêmes leur trajet pour aller au travail.
Merci Célestin Bouger. Allez, dans un instant, le journal de 8h et juste après l'écho avec Pierre Rondeau. Pierre, le vélo déraille.
Oui, un gros coup de frein sur les ventes.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.